je viens d'apprendre là en me réveillant que Dieu avait coché la case parentohaine quoi ce matin. Il avait le choix pourtant, mais bon, il a coché celle-là quoi. Il aurait pu cocher la Jean-Paul II, la Jean-Michel Jarre, non. Mais il a coché la case Yann parentohaine, voilà. Le choix des médiocres est souvent déconcertant, comme disait William Black, que tu connais sûrement. Nous vivons dans le monde de l'enfer total. Je crois que c'est bien vrai. Enfin, souvent. Voilà, condoléances à toi qui l'a connu, à tous ses proches. Que dire de plus? Salut.
Nord.
Allez, Lina!
Allez, allez, allez!
Je crois que dans une course comme ça, la stratégie, elle n'a pas 50. Hein, je crois qu'il faut arriver à amener le leader à un point précis qui est l'entrée des pavés, en essayant de lui faire faire le moins d'efforts possible. Essayez de prendre la place du voisin pour être le premier à rentrer sur les pavés. Ça bouscule un peu, hein. Et là, je suis rentré quand même pas trop mal pour une fois.
Neuvilly. Véo à droite, 106 km, 13h09. C'est à Neuvilly qu'on entre dans un autre monde, celui de l'irréel, de la féerie pour les uns, de la damnation pour les autres. Ceux que l'on paye pour faire avancer une machine qui sursaute à chaque coup de pédale. Nord.
Chaque midi, chez Madame Marcel, il commençait par des œufs mayonnaise. Il était breton, il était né à l'île Grande, et à l'âge de 17 ans, pour soulager, disait-il, de sa famille modeste, il était parti dans la marine pour 5 ans. Et par hasard, en 1957, il était entré à la RTF. D'abord, il fut opérateur du son, et puis il devint opérateur au sens d'auteur d'opéra sonore, c'est-à-dire opéra quotidien, opéra inaperçu, la pluie quand la portière s'ouvre, le dérailleur de Bernard Hinault en 1981, ou Madame Lulu, femme de ménage de la maison de la radio, dont la voix assurait-il et montrait-il changeait au point du jour. Il aimait Tati, Godard, Doisneau, Depardon, il leur ressemblait. Et il a inventé un langage. Il est mort dans la nuit de lundi à 69 ans, un 28 février de neige, et il nous laisse la plus belle œuvre de l'histoire de la radio. Il s'appelait Yann Parentohaine. La radio, c'est de la peinture, de la pâte, de la matière, l'art, le plus visuel et le plus tactile qui fut, sa vie en dépendait. Son père était tailleur de pierre, et lui aussi Lui, c'était tailleur de son. Tout le monde l'appelait le tailleur de son. Et son père avait taillé les pavés de l'enfer du Nord, que nous entendrons. Les pavés du Paris-Roubaix, et Yann n'en manquait aucun. Plus de 100 Paris-Roubaix. Nagra en bandoulière, micro dans une main, parapluie de l'autre. Il jubilait, il chopait les sons à grands gestes comme les attrapeurs de papillons, des sons qu'il rapportait à la 208, sa cellule au 5e, dans la radiale, où un long travail de montage et de mixage commençait. Et entre les minutes, parce qu'il lui fallait des mois pour faire une minute, il partait en Bretagne, il allait voir ses pommes de terre. Il avait parcouru la Hollande avec sa compagne, avec une reproduction à la main, demandant aux gens le nom des pommes de terre peintes par Vincent. Il avait refait l'itinéraire de Vincent Van Gogh. Et tailler du bruit pour faire du son, tailler du son pour faire du sens. Un hommage à Yann Parentoen ne peut être qu'en forme de manifeste pour le langage radiophonique. Une ode à Louis, alors même que Radio France a choisi d'appauvrir l'expression radiophonique en réduisant le volume des reportages, des fictions et des documentaires sonores au profit d'émissions de plateau peuplées d'invités toujours en promotion. La radio fait de la radio une langue morte, disait aussi Yann Parentoen. En 1999, on lui avait consacré une émission dans sa cellule du 208 dans la radiale où il venait travailler quand il voulait. Radio France avait mis à sa disposition cette cellule où il pouvait venir travailler quand il voulait. Et avec Jean-Claude Guigbeau, il nous avait reçu et montré son travail. Et en hommage à Yann Parentoen, donc aujourd'hui on va retrouver ces moments passés avec lui. Il avait consacré une émission entière au Nagra, c'est-à-dire le magnétophone, le Nagra. En polonais, Nagra se traduit par enregistrera. Et il aimait répéter un truc, Yann Parentoen. À quel moment pensez-vous qu'une œuvre est terminée? Et il aimait répéter la réponse que lui avait fait un sculpteur. C'est terminé quand ça chante.
Oui, bonjour. Je voudrais faire une suggestion. Après la journée sans voiture, la journée sans tabac, la journée, etc., etc., moi je suggère et je demande de grâce une journée sans bulletin de santé du pape.
Essayez de prendre la place du voisin pour être le premier en
passant. Au revoir.
Bon, j'appelle de la Ferté-Macé, c'est une grosse bourgade rurale dans le département de l'Orne, région Basse-Normandie. Notre beau pays de France, notre belle Chiraki à tous, enfin presque à 82%. Notre petite ville est en déclin, personne ne peut le nier. Ce n'est pas la tripe ou le folklore gastronomique qui va la sauver. Notre petite ville n'a pas les arguments de sa voisine Bagnole de l'Orne, bourgeoise et pimpante qui vit de son thermalisme, de son casino, de ses machines à sous, et peut-être même aussi de sa chasse à cour en forêt d'Andenne. La forêt d'Andenne devenue le terrain de chasse favori d'un certain monsieur Vuitton, qui au prix d'une enchère faramineuse a acquis le droit de massacrer une trentaine de cerfs. Non, nous sommes au cœur d'une bourgade, d'une zone, d'une seconde zone, d'une zone de développement, de sous-développement durable, où les politico-administratifs, technocrates de l'ARH chassent fort et ils viennent de massacrer la maternité de notre hôpital. Et bientôt, ce sera le tour de la chirurgie et des urgences et tout le reste. Hôpitaux, bureaux de poste, écoles, trésoreries, la chasse aux services publics est ouverte. Attention, les privilèges sont pourtant abolis. Attention, les gueux donnent de la voix à chaque lundi soir depuis un mois. Dans la froidure de l'hiver, la population manifeste sa résistance citoyenne et son refus et demande des comptes aux élus, aux abonnés absents. Chaque semaine, plus nombreuses, plus déterminées, plus solidaires et plus révoltées que jamais, elle dit non, non, non et non. Et ça me rappelle une version populaire de la Marseillaise chantée par Gaston Couté. écrite par Gaston Coutet. Allons les gars, en route, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. Ça sera peut-être la version que les instituteurs apprendront à leurs élèves dans les écoles. Bon, je vous souhaite à tous le meilleur. Auditeurs, sachant auditer, nous vivons une époque moderne. Merci. C'était Daniel Clérombeau de Saint-Maurice-du-Désert dans l'Orne. Merci, au revoir.
Alors, on a encore un nouveau chômeur sur les bras avec Guémard, mais il pourrait se reconvertir dans la cordonnerie et rassembler les bottes à Juppé. Ça ferait pas de mal. Salut.
Bonjour, je m'appelle Emilienne, j'habite dans l'Aude et j'ai 14 ans. Ça serait pour passer un message. En fait, il y a pour recueillir le plus d'adolescents de mon âge qui puissent venir militer contre les réformes Fillon, parce que c'est inadmissible. On va pas se laisser faire. Dans mon collège, on se fait de plus en plus marcher sur les pieds. On a de moins en moins de droits. Alors il faut absolument que les gens de l'Ariège et de l'Aude, enfin de tous autour de Carcassonne, puissent se déplacer. Ça serait très important. Merci de passer mon message. Ça, c'est le 10 mars, je répète, à Carcassonne. Il faudrait venir assez tôt et emporter un pique-nique. Merci de passer mon message. Au revoir.
Oui, bonjour. Sans les investigations salutaires du canard enchaîné, nous n'aurions assurément rien su des privilèges éhontés, mais l'ego nous a tant dit des guémards. L'abolition des fonds spéciaux et l'augmentation très importante des aliments du ministre devaient en principe garantir une meilleure transparence dans la gestion des fonds publics. On en a vu en effet l'effet. Alors, à quand les mêmes révélations sur l'explosion des frais de fonctionnement de l'Élysée depuis l'arrivée des Chirac? Salut, à bientôt.
Oui, bonjour, moi j'habite Antony, donc notre député c'est Patrick Devedjian qui est ministre délégué à l'industrie et qui lui aussi bénéficie d'un logement de fonction dans l'île Saint-Louis pour 6 000 € hors charge, ainsi que son collègue François Loss. C'est-à-dire que par an, il coûte 144 000 € à la République, donc il faudrait peut-être aussi en parler. Merci.
Oui, bonjour, ici c'est Eric de Gérardmer. Alors aujourd'hui, c'est le 341e jour que Madame Benedetta Berdica, réfugiée albanaise et ses deux enfants, sont maintenus en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refuse de lui délivrer une carte de séjour en dépit des instructions formulées le 22 mars dernier par Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Madame Berdica et ses enfants sont les victimes innocentes des luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi, ne les oublions pas.
Salut Daniel, c'est David de la Creuse. Une nouvelle fois, là-bas où je suis, s'adresse aux auditeurs de là-bas si j'y suis. Après nos manifestations, les démissions spectaculaires de plus de 260 élus locaux, maires, conseillers généraux, face à la sourdingue attitude du gouvernement, Guéret sera la capitale d'un jour de la défense et développement des services publics. Le collectif creusois appelle à une manifestation samedi 5 mars, toute la journée. D'ores et déjà, d'après les contacts que nous savons que en car, en train, en voiture, à pied, on attend des collectifs de toute la France, des personnalités politiques, syndicales ou associatives. À Guéret le 5 mars, la France urbaine et la France rurale seront unies pour le même besoin de services publics, car nous pensons qu'il n'y a pas de république sans services publics et pas d'égalité sans proximité. Ce jour-là, samedi 5 mars, on aura l'occasion le matin, avec la rencontre des collectifs, de se rencontrer, se fédérer, grandir. À 14h30, avec la manifestation nationale, nous pourrons protester, réclamer, témoigner. Et puis à 17h30, avec le débat organisé sur service public, démocratie, bien commun, on pourra réfléchir, imaginer, proposer et s'engager pour l'avenir des services publics. On fera tout ça ce jour-là à Guéret, le samedi 5 mars. Voilà, le collectif creusois peut être contacté pour plus de détails sur l'adresse mail en minuscule collectif.creuse@wanadoo.fr. Allez, samedi, tous à Guéret le 5 mars. Salut à tous.
Olivier. L'enfant assis se balançait, mécanique. Il y avait dans son regard un peu d'asiatique. Un type sérieux parlait à la télé, le tour de cou bien cravaté. Il avait la prétention de parler d'éducation. Le gamin ne pouvait même pas rire. Il ne savait ni lire ni écrire. L'autre, cheveux rayés bien gominés, alignait les chiffres expertisés. Moins de moyens pour plus de réussite. Ainsi résonnait la tête des vitres. Chaque jour, dans une comédie bien réglée, c'était à qui viendrait pour débiter le discours convenu sur la liberté. Le journaliste, couché, posait la question arrangée. Un autre, avec affectation, parlait de justice, avec des juges à la merci de la police. Les prisons pleines, dégorgées de prisonniers, c'était bien une preuve d'efficacité. Le docteur, lui, avait le remède de cheval pour se débarrasser publiquement de l'hôpital. Alors qu'un engin photographiait Neptune, les dévoués n'avaient même pas une thune. Pour leur payer les pansements, on faisait la quête charitablement. Tous ces amputés de la pensée ne rêvaient que propriété privée. Des gens mouraient dans des cartons, sans mettre à mal leurs convictions. Le pays croulait sous les ordures. Le clochard avait des injures.
Salut, c'est Daniel Mermet. Yann.
Flight number 2, arriving from New York.
Voix rencontrée. Son capté. Lieu traversé. Essai de voix.
Magnifique, piano, dont, dont ne joue que sur une seule touche. Voilà l'usage que l'on fait de la radio. Un orchestre symphonique qui est là, au grand complet, mais c'est toujours le même type qu'on entend jouer, le même air, avec le même clairon. Voilà l'usage que l'on fait de la radio. Un média en friche, des fainéants dans une vallée fertile, une réserve de possibilités inouïes. Qu'est-ce que la radio? C'est un peu comme pour l'amour, il faut être au moins deux. Sans vos oreilles, pas de radio. Sans nos sons, pas de radio. Le son est Louis. Aujourd'hui, le son de son est ode à Louis, avec Yann Parentoen, sculpteur de son et traqueur d'inouïs. Pour une fois, une très rarissime fois, on va voir de la radio à la radio, et même on verra de la radio à la radio, parlant de la radio et montrant de la radio, un peu comme les images de Camembert. C'est pas souvent qu'on descend de nos petits vélos pour nous regarder pédaler. Qu'est-ce que la radio, disais-je ? Des sons en un certain ordre assemblés. Une définition qui a déjà été utilisée pour la musique. Mais si on prend cette définition pour la radio, on se dit alors que la parole est un son parmi d'autres, que le disque est un son parmi d'autres. Mais le paysage sonore de nos vies, dans la rue, dans la maison, est bien plus riche que ce qu'on entend à la radio. Il n'y a qu'à la radio qu'on n'entend pas de bruit. Il n'y a qu'à la radio que le paysage sonore, la vie, le bruit, les sons sont aussi pauvres et aussi réduits. Est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas ou plus écouter? Est-ce que ça veut dire que nous ne vous offrons plus ou pas de sons riches, inouïs? Que ce serait comme un genre de fast-food pour les oreilles? Ce qu'on vous proposerait, un genre de McDo sonore? S'il n'y avait plus de parfum ni de goût, pour vos oreilles? Et puis, est-ce que c'était mieux avant? Vous me voyez venir, au temps où l'on regardait la TSF? Est-ce qu'on va se vautrer dans quelques plans nostalgiques évoquant Maître du Mystère et autres Pierre Dac et Francis Blanche? Il y a 22 ans, j'ai enregistré ma première émission ici à la radio pour France Culture. À peine avais-je enregistré qu'un type était déjà en train avec des ciseaux d'enlever le bruit de ma voix, de ma bouche et de ma respiration. J'ai ensuite eu la chance de rencontrer Yann Parentoen pour m'apercevoir que tout ce que je savais des arts plastiques pouvait se transformer en radio. En somme, jusqu'à 18h, ce que vous allez entendre, c'est une reconnaissance de dette. Qu'est-ce que t'avais fait avec cette fenêtre?
Avec fenêtre, cette fenêtre, quand j'ai commencé l'émission de Lulu, elle est passée là, j'enregistrais, et je dis à Lulu, la fenêtre est ouverte, je la ferme. Alors je la ferme. Et quand je réécoute ça sur la bande, je me dis, mais c'est peut-être intéressant parce que quand Lulu me parlera de sa vie intérieure à la maison de la radio, je fermerai. Quand elle partira vers l'extérieur chez elle, j'ouvrirai. Et cette ouverture était devenue, mais ça aussi, il faut le faire passer. Parce que une fois que tu as l'idée, il faut la faire passer. Ça, c'est ce que là, ça va, mais il faut que l'auditeur sache que quand tu fais ça, on va entendre Lulu parlant de sa vie intime, intérieure, et quand on entendra ça, qu'on va aller vers l'extérieur. Mais bon, logiquement, il ne faut pas tout dire non plus, mais il faut l'aider.
Radio mon amour, on va passer cette heure donc avec Yann Parentoen dans son studio, je disais tout à l'heure atelier. Yann est un vieux copain, c'est difficile d'en parler comme ça, mais on peut dire qu'il est né à l'île Grande, dans les Côtes d'Armor. C'est peu de dire que Parentoen est breton, et comme beaucoup de bretons, il a été marin, il a été radariste quand il était assez gamin, à 17 ans, et puis ensuite, il y a toute une histoire, une saga de Parentoen. Il s'est retrouvé à l'ORTF, il a été technicien, opérateur du son à l'oreille en coin, c'est là qu'on s'est rencontrés, et puis il est rentré à l'atelier de création radiophonique que vous entendez tous les dimanches soirs sur France Culture, et là il s'est immiscé, et petit à petit il a, je dis bien petit à petit pour Yann, parce que c'est un homme du temps long dans un média qui s'imagine celui de l'instantanéité. Quelqu'un parlait récemment du clinquant de l'instantanéité radiophonique. Et c'est bien c'est Jeannonet qui parlait comme ça. Et c'est une très bonne idée d'opposer ce temps long, ce temps lent à cette fausse rapidité. Et Yann Parentoen donc produit pour les ateliers de création radiophonique une émission de temps en temps. Une heure par an, parfois dans les bonnes années, il produit 2 heures d'émission. Vous allez le voir, c'est un très grand monsieur, pour nous c'est une référence qui a été rendue possible grâce au service public. On peut au passage faire un petit hommage à cette maison et à son côté public, de bien public. Comme Bourdieu parlait de la main gauche ou de la main droite de l'État, on parlera ici de la main gauche du service public. Parentoen.
La main disparaît, enfin, il n'y a plus de toucher. Alors que moi, je travaille beaucoup avec la matière bande.
Moi, rencontrer.
J'ai préparé des écoutes. Et j'ai besoin de toucher. Enfin, j'ai des ciseaux. Ciseaux et scotch. Et je ne peux pas me passer de ça. Quoi. Je veux dire, si...
Pourquoi?
Parce qu'il y a la sensualité de la bande, enfin la matière. Parce que par exemple, si je repère quelque chose, j'ai le temps, bon, si je repère là...
Voir rencontrer.
J'ai le temps d'aller au pupitre, et le temps d'aller au pupitre, je me dis, est-ce que j'ai raison de faire ça? Donc je suis pour une certaine lenteur. Faut pas que ça aille trop vite.
C'est-à-dire que la résistance du réel vous permet, vous donne le temps de penser, quoi, en fait.
Voilà. Hein? Et cette lenteur, en fait, c'est une forme de rapidité, parce que... Au moment où on va décider de faire le mixage, on est à peu près sûr. Donc on se lance, c'est toute une préparation. Là c'est comme une palette, où il y a 1, 2, 3, 4, 5 magnétos, et il y en a un qui enregistre, bien sûr, donc j'ai 5, je peux avoir 5 sons. Par exemple, là, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai préparé, enfin je crois que c'est Talquat, c'est le peintre, parce qu'il y aura une séquence sur la main, les peintres, bien sûr, et Talquat en fera partie.
Mais c'est une simulation qui a tendance à faire croire que la main, le matériau, c'est pas négligeable, mais enfin, il y a toujours la tête. N'est-ce pas, comme au XVIIe, les écrivains, les littérateurs tenaient le haut du pavé, les autres, c'était rien du tout, quoi. C'est comme actuellement, maintenant, ce sont les scientifiques. Les autres, c'est rien. Il y a les scientifiques, les autres, c'est rien. Ben, au XVIIe, c'était les écrivains. C'était les aristocrates de la pensée. Les autres, c'était rien.
Disons, c'est un autoportrait, ça, Yann.
Un peu, oui, c'est pas idiot, bien sûr. Mais... c'est ce que je pense de la radio. Parce que la radio, pour moi, c'est peinture.
C'est-à-dire que c'est une matière. Le son, c'est une matière.
C'est une matière qui a une épaisseur.
Un grain.
Un grain. Je crois que c'est un quoi qui, à un moment, dit qu'il n'aime pas les tableaux qui n'ont pas de poids. Voilà. Et en plus, je crois que la technique ne peut rien pour l'essentiel. Enfin, elle est indispensable, mais c'est pas là que ça se passe.
Vous connaissez la phrase de Heidegger, la science ne pense pas.
Oui. La technique, c'est un support. Enfin, il vaut mieux avoir un bon magnéto au départ, mais c'est le montage qui va décider. C'est pas la technique qui va rendre votre démarche poétique.
Voir rencontrer. Son capté. Lieu traversé. Essai de voix.
Au temps de l'âge d'or de la radio, après la Deuxième Guerre mondiale, on s'intéressait beaucoup, on parlait beaucoup de la radio. C'est dans ces années qu'a été créé l'atelier de création radiophonique et qu'on se souciait beaucoup d'écriture, de création. Les grands poètes étaient requis. Pierre Schaeffer a beaucoup travaillé sur l'écriture radiophonique. Et puis après, la radio a été écrasée par la télévision et passée au deuxième plan. Et puis aujourd'hui, que la télévision se domestique, rentre dans nos vies d'une manière moins tyrannique, eh bien la radio, contrairement à ce qui avait été prévu, reprend du poil de la bête dans le sens de l'âne qui est devant du son. Et on peut retrouver aujourd'hui toutes les grâces de ce moyen, ce fabuleux moyen d'expression. Pour Yann Parentoen, c'est avant tout un moyen d'expression.
Lulu. J'attends Fatima parce qu'elle apporte toujours un petit café. J'en bois un le matin en arrivant. On va pas tarder. Et puis, peut-être même pas une demi-heure après, il y a Fatima qui vient m'emporter un pendant 15 ans. Bonjour. Que je sois là ou pas là, elle pose mon café et elle s'en va. Alors, en apportant son sac, elle porte le café. Hier, je l'ai trouvé sur la table. J'ai dit, tiens, ça, c'est Fatima. Il était froid, mais moi, j'aime le café glacé. Je sais que c'est elle. Et depuis 15 ans, depuis que je suis là. Ça, elle ne le fait pas à tout le monde, hein. Ça, c'est vrai. Amrit.
De l'Algérie.
Fatima Amrit.
De Bléda.
Elle a que 50 ans, Fatima. Je la croyais plus vieille, hein. Elle a 50 ans.
Donc là, Lulu, c'est un travail que j'avais fait pour l'atelier de création sur les femmes de ménage de la maison. Et c'était le personnage principal. Ce qu'il y avait d'intéressant dans cette radiale, parce que j'ai enregistré cette émission en ouvrant la porte, simplement. Un jour, j'ai dit, tiens, est-ce que je peux faire une émission en ouvrant la porte de la cellule? Et donc, j'ai guetté les passages pendant 6 mois, les allées et venues des femmes de ménage. Il y avait une idée, c'était de montrer au premier degré le social, le comment ils travaillent à la maison de radio, mais aussi un travail sur l'esthétique sonore de la maison à cette heure-là, parce que les sons changent dans la maison. Elles arrivent à 6h du matin. À 8h arrivent les ouvriers, et à 9h les gens de studio. C'est pas du tout la même coloration. Les voix,
parce que les frappes. Parce qu'en écoutant ça, c'est le formidable pouvoir évocateur visuel de ce son, parce que la scène, on la voit, enfin, on se trompe probablement, mais on voit la scène, on imagine le seau avec la serpillière qui dépasse, il y a une espèce de réverbération dans une pièce vide, la pièce du matin avec le sol mouillé, enfin, ça parle immédiatement à l'imagination.
En fait, quand je travaille, la difficulté pour moi, c'est de me taire, parce que je ne pose pratiquement pas trop de questions, enfin. Et j'essaie de ramasser ce que dit l'autre, parce que si je fais « ah bon » sur ce qu'il me dit, je ne peux plus découper sa phrase. Elle n'a plus d'intérêt si
elle est recouverte par la vôtre.
Voilà, hein. J'essaie de le voler. C'est toujours un acte, l'enregistrement, c'est un viol. Hein. C'est toujours un viol. Et essayer d'attraper le spontané. C'est-à-dire que... Ensuite, il faut rétablir la vérité au montage. C'est-à-dire qu'il faut pas... Il faut savoir que l'autre ne savait pas qu'il était enregistré, donc il faut le respecter et se dire, tiens, il a peut-être dit ça, parce qu'il ne savait pas qu'il était enregistré.
Il ne savait pas, c'est Fatima qu'on entendait.
Elle ne savait pas. Bien sûr, non. Il s'habitue à me voir avec un magnéto, ouais. Il savait, je les vois tous les
et
jours.
Et quand elle a entendu, comment elle a réagi?
Lulu?
Oui.
Elle a dit, c'était moi la meilleure. Elle a dit, c'était moi la meilleure.
Que je sois là ou pas là, elle pose mon café. Et elle s'en va.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle devient, Lulu, tu sais?
Elle a pris sa retraite. Je pense qu'elle a un petit vélo Peugeot rouge. C'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Et elle se balade du côté de Vichy, par là.
C'était un bonheur.
Ouais. Ah, c'est un bonheur. Mais c'est une rare émission qui passe. Parce que je dis, attention, là, on n'est pas en écoute radio, par exemple. La radio, ça s'écoute quand ça passe dans le poste. La magie de la radio, c'est dans le train d'ondes qui va de l'émetteur au récepteur. Sinon, là, la bande est morte. Enfin, elle vit pas, quoi. C'est comme des comédiens qui seraient en répétition.
Que la transmission ajoute quelque chose?
Oui. Parce que c'est là que c'est magique.
C'est-à-dire quoi? Ça ajoute l'incertitude du vrai, du réel?
D'une part, et d'autre part, vous pouvez imaginer aussi que d'autres écoutent en même temps que vous.
Ouais, c'est ça. La communauté. Ça convoque.
Voilà. Ouais. Et c'est une écoute de 1 à 1. C'est dans le sens que je différencie.
D'autres écoutent. On se dit d'autres écoutent. J'écoute, mais d'autres sont en train d'écouter. Oui. Il y a une communauté.
Donc, il y a une communauté de présence silencieuse, forcément.
Forcément. Et c'est fragile, parce que ça va peut-être s'arrêter. Ça passe quand même dans un chemin technique qui n'est pas sûr.
Enfin. Sans vouloir être pédant, cette présence, elle transforme ma propre écoute. Ce que je sais de cette présence, hein, autour, collective, elle transforme ma propre façon d'écouter. Quoi.
Voilà. Et la notion du temps n'est pas la même. C'est-à-dire que l'émission qu'on écoute en studio, qui dure 2 heures, ça peut paraître long, en public en tous les cas, parce que le public se lasse, etc. Alors que dans le poste, la notion du temps n'est pas du tout la même.
C'est comme dans tes reportages, il y a quelqu'un qui frappe à la porte.
Une recette aux pommes de terre.
Parce que je demande. J'ai une passion pour la pomme de terre.
Venez.
Et c'est pour ça que j'ai fait un travail sur.
C'était pas prévu à l'avance, c'était.
Non, pas du tout. C'est Pierrette qui travaille à la bibliothèque musicale, on peut dire.
Bibliothèque d'orchestre.
D'orchestre.
Et pourquoi venez voir Pierrette?
Parce qu'il est un collectionneur et que j'ai pensé que ça pourrait servir à Yann d'avoir une recette de pommes de terre noire à la vinaigrette au beurre.
Ça devrait pas être mauvais.
Aujourd'hui, j'ai suivi les laboureurs qui retournaient un champ de pommes de terre.
Venez, vous allez voir comment on prépare les pommes de terre.
Et en fait, ça m'a permis d'approcher le tableau de Van Gogh. Parce que quand j'ai approché le tableau de Van Gogh, les marchands de pommes de terre, je ne suis pas du tout intéressé de la peinture, je me suis dit comment je vais m'y prendre pour approcher Van Gogh. Alors j'ai pris une reproduction en grandeur carte postale du tableau. Je suis allé en Lande et j'ai demandé aux paysans, à votre avis, quel est le nom de la pomme de terre?
En leur montrant Van Gogh.
Ouais. Alors ils m'ont dit, ça, ce devrait être des roadsters, qui veulent dire étoile rouge. Hein. Alors l'été, c'était pas des roadsters, c'était les pommes de terre de l'industrie, c'est-à-dire des pommes de terre qu'on donnait aux cochons. Et progressivement, l'histoire Van Gogh s'est dégagée à travers les paysans qui m'ont dit, mais mon arrière-grand-père a connu Van Gogh, et il travaillait de cette façon, ils avaient des petites baraques, des paysans, pas assez riches pour mettre des vitres, hein. Donc ils prenaient des bouts de toile dont ils ne se servaient pas, ils bouchaient les trous. Et l'histoire Van Gogh est née de la Van Gogh.
J'ai rencontré des personnages superbes. Mais encore une fois, une nature qui a tant de noblesse, tant de dignité et sévérité, doit être traitée avec sagesse, patience, travail durable.
On les fait bouillir et puis on les mange. On en mange tous les jours. Tous les jours, ils mangent des pommes de terre. C'est pas encore cuit. Non, je vais mettre le feu un peu plus fort.
Et puis là, quand même, dans la correspondance, j'ai trouvé une phrase que je garde en mémoire, c'est Van Gogh, je suis à la recherche de couleurs que l'on ne peut nommer, mais dont pourtant presque tout dépend.
À l'est de la Hollande.
Je fais ce qui me semble être le plus simple. Tout ce qui n'est pas simple, je vais m'en débarrasser. Je veux plus de la ville, je veux dehors, je veux peindre.
Et là, on va prendre un chiffon parce que la casserole est chaude. Puis on verse l'eau. Et c'est les cochons qui vont avoir cette eau ce soir. Tout est utilisé. Alors ensuite, on va secouer les pommes de terre un peu dans le vent. On va les secouer. Ça, on va avoir des belles pommes de terre bien sèches. Ensuite, on les met dans le plat.
Il y a un moment, pourtant, il faut terminer, mais c'est toujours difficile, parce qu'il y a un plaisir qui s'estompe avec le temps. C'est quand on fait un mixage, moi, il m'arrive de pleurer. Des fois, je suis touché par la chose qui va exister, et qui va... Est-ce que c'est moi qui l'ai faite, peut-être? Mais il y a aussi le hasard, le mélange, tout ça. Mais ce plaisir va disparaître, parce que plus on va écouter, plus on va avancer dans l'émission, et plus on aura écouté cette séquence. Donc voilà, c'est dangereux.
Voilà. L'effet d'émotion s'émousse progressivement.
Mais ça, c'est exactement comme les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre, mon père est tailleur de pierre. Peut-être qu'on aura le temps d'écouter un peu sa voix. Je prie comme ça.
Juste là, ici, on travaillait avec le soleil. Hein? On commençait au jour et on finissait la nuit. Et tout le monde travaillait à la tâche. Alors, on travaillait beaucoup, beaucoup d'heures, pour gagner peu. Ouais. Il n'y a plus, ils sont morts tous. Le dernier, on l'a enterré la semaine dernière, c'est Molini, je crois. Des gars des carrières qui ont connu ça en activité. Je suis, oui, c'est moi le plus âgé.
On va sur quelle île maintenant, Pala?
Sur les Frodes.
Vous allez à la pêche pendant la journée un peu à marée basse
pour aller... Non, rarement. Ils n'avaient pas le temps d'aller à la pêche. Ils perdaient pas le temps pour aller à la pêche. Ils allaient à la pêche le dimanche, des fois, et encore, ils travaillaient le dimanche matin. Ouais.
Et mon père disait qu'un travail sur le granit œuvré, il ne pouvait l'attaquer que lorsqu'il le voyait fini. Et en mixage, c'est pareil. C'est-à-dire que les mixages se font dans la tête. Il y a des rouages, des mélanges qui se font. Et à partir de ce moment-là, on peut se lancer. Mais évidemment, on pense toujours à l'idéal, mais ça ne sera jamais ça, quoi. Par exemple, dans Lulu, dans la radiale, j'ai découvert longtemps après, l'émission a été diffusée, qu'il y avait une différence de marche. C'est-à-dire que je l'ai entendu 100 fois, pourtant, je l'ai pas entendu. C'est-à-dire que les femmes de ménage marchent comme ça. Et tout ce qui est hiérarchie. Je parlais des. Ça, c'est Madame Pinto. Elle est chef. Oui. C'est un chef. Ça, c'est un chef. Hein? Et ça donne. L'émission est intéressante au niveau du minutage aussi, parce qu'il y avait une unité de lieu, et il y a 50 secondes entre la porte ici et 52-54. Donc toute l'émission était rythmée.
Elle, c'est Madame Pinto.
Je m'appelle Maria Vicentina Pinto de Sousa Cruz.
Ça, je l'ai entendu au mixage, alors que je l'ai fait 20 fois. À l'antenne non plus, et c'est longtemps après, en écoutant, le son donne la fonction sociale. Comme quoi, c'est une information d'abord. Et ça, on l'entend pas tout de suite. Parce qu'on a d'autres... Il y a plusieurs écoutes. On a la préoccupation, déjà, quand on vient d'un enregistrement, on remonte la bande et on la met près de la tête. Si ça chante, si on entend, c'est déjà enregistré.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans. Quoi.
Quand on met deux sons bout à bout, il faut que ça, quand même plus un, ça fasse trois. Quoi. C'est-à-dire, si ça fait deux, ça n'a pas l'intérêt. Quoi. Il faut que la rencontre de deux sons donne naissance à une troisième situation. Et ça, c'est pas toujours facile. Hein.
Éphémère, mais pas vide, instantané, mais pas creux, l'art radiophonique de Yann Parentoine est chargé de mythologie personnelle. Son père, tailleur de pierre, son pays, l'île grande, les femmes de chez lui, son amour pour la bicyclette, pour le vélo, pour le Tour de France, mais aussi pour le Paris-Roubaix. Pourquoi ? Parce que les pavés du Paris-Roubaix ont été taillés par son papa qui était tailleur de pierre. Il y a comme ça le poids des mythologies personnelles d'un homme qui se donne à entendre. Voilà d'où vient l'art de quelqu'un et voilà ce qu'il peut produire.
Alors là, ce sont les femmes de... On écoute les femmes de Lugrande, ça dure 8 minutes. Ouais. Mais je crois que cette séquence, c'est l'histoire de femmes. Ça va être...
Nous avions des marins, bien sûr, hein. Et puis alors, il y avait des tailleurs de pierre aussi.
Et les tailleurs de pierre.
Mais je suis chipée pour ma pomme d'un petit bossu mal balancé.
Non, mais une préférence, oui, pour les marins, oui. À mon idée.
C'était la marine militaire. J'étais toujours en tenue, le dimanche. En seconde mythe ou en premier mythe, enfin, ça tapait à l'œil un peu, hein.
Les tailleurs de pierre, à cette époque-là, ne comptaient pas tellement.
C'était pas des gens à part. Mais la situation, tu comprends, n'était pas assurée.
Et tu as fait un lien entre les tailleurs de pierre... Et le vélo, parce que t'es un fou de vélo. Toutes tes émissions partent de ton histoire personnelle. Hein. Là, c'est le grand, c'est l'histoire de les femmes de ton pays, il y a l'histoire de ton père, le tailleur de pierre. Il y a le Paris-Roubaix, t'es un fou de vélo.
Et
puis les pavés du Paris-Roubaix ont été taillés par ton père à l'île
Grande. Ouais. C'est lui qui un jour m'a dit l'enfer du Nord sort d'ici. J'ai trouvé. Ouais, l'enfer du Nord sort d'ici. Et donc, je suis allé voir, quoi. J'ai eu envie de faire un travail un peu comme dramatique, les coureurs qui sont les acteurs, le décor du Nord et ceux qui ont fait le décor.
Ceci, vous n'avez pas dit l'essentiel, c'est en fait pourquoi la radio au tout début ? Comment vous êtes tombé dans cette marmite-là ?
Ouais, mais c'est un peu anecdotique, mais c'est la vérité. J'étais marin pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'à 17 ans, je naviguais sur différents bateaux. Et puis j'ai quitté ces 5 années en disant...
Tu étais radio ?
Radariste. Et en fait, c'est toute l'histoire, parce que je suis sorti de cette période maritime et je suis venu sur Paris bêtement. J'étais garçon de prisonnier qui est venu de Versailles, un prisonnier qui existe toujours. Je crois que c'est froid en prix. Et puis là est entrée une femme de mon village. Et elle m'a demandé ce que je faisais là. Alors je lui ai dit, voilà, j'ai fait 5 ans de marine et je travaille en attendant de trouver quelque chose. Et elle me dit, qu'est-ce que tu sais d'un marine ? Une question que tu m'as posée. Elle m'a dit, je lui ai dit, j'étais radariste. Elle me dit, moi je garde les enfants d'une dame qui travaille à la radio. J'ai jamais oublié son nom, c'est madame Koudichanuko, mais qui était dans la partie administrative. Et elle m'a fait venir chez elle. J'ai rencontré par la suite un ingénieur de la maison qui s'appelait monsieur Ctoir à l'époque. On a discuté un peu. Il m'a dit, je vous prends en stage et je me suis retrouvé. Je sais pas ce qui s'est passé à Cognac. On m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire, être caméraman ou de la radio? J'ai dit, caméraman, c'est un mot super barbare. Je vais jamais y arriver. Et radio a sonné sympathique parce que sur le bateau il y avait les radios. Et j'ai dit, radio. Et là tout d'un coup j'étais au spectacle. Je voyais les gens tous brillants, tous au top niveau. Je voyais les comédiens, les musiciens. C'est extraordinaire, quoi, ce qui m'arrive.
Ah, moi, je voulais me marier à un marin. Et pas un marin d'État. Je préférais un marin de commerce.
Donc, j'ai monté. Puis, quand on monte, on écoute hein, beaucoup. C'est-à-dire qu'on écoute 20 fois ce qu'a dit la personne. Donc, on se pénètre, on imprime bien le discours, on apprend plein de choses. En fait, j'ai une culture de haut-parleur. Il y a des trous, hein. Il y a des choses que j'ai entendues. D'autres pas. Oui, c'est-à-dire que d'un studio à l'autre. Quoi.
Vous avez aussi fait un travail sur la chasse, non ?
La chasse au sanglier dans les Ardennes. Oui. J'ai des sons, là, je crois que j'ai des sons de chasse. On peut consulter un petit bout.
Oui, oui.
C'est la craque. Allez !
Je n'arrivais pas à le démarrer tout seul. Ouh, qui faisait, vous avez tendu. C'est pas comme une menée. Ah. À
Voilà, hommage à Yann Parantouen. Il y aura sur France Culture, jeudi 3 mars, de 21h à 22h, une table ronde réunissant des professionnels de la radio et de la création sonore qui s'attacheront à mettre à jour l'originalité de l'œuvre de Yann Parentoen. Ça, c'est sur France Culture. Un style inégalable. Et il y aura aussi une soirée dédiée à Yann le samedi 5 mars 2005 de 22h à minuit avec des diffusions d'émissions signées par Yann Parentoen. Merci à tous, merci à Jean-Claude Guibaud que vous avez entendu la voix et les commentaires au cours de cette émission que nous avions enregistrée avec Parentoen en 1999. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. L'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chao, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Pascalillo et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur dont le numéro est 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis. On retrouvera Sylvain Sipel et Denis Sifer sur deux bouquins qui sortent, l'un sur les rapports entre la France et le conflit israélo-palestinien, celui de Denis Sifer, et le livre qui va être un événement, celui de Sylvain Sipel, qui s'intitule « Les emmurés, la société israélienne dans l'impasse ». Ce sera demain à 17h. Dans la basse, j'y suis, dans 30 secondes de pub, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. Salut.